France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
De proche en proche, des histoires de famille. Peu d'arbres ont autant de ramifications qu'un arbre généalogique avec. Dès qu'on remonte quelques générations, un nombre conséquent d'individus, et pire encore, si les fratries sont prises en compte, ce n'est plus un arbre, c'est une jungle. Voilà l'exercice intellectuel exigeant auquel s'est pliée l'historienne Emma Rothschild pour une étude stimulante de proche en proche, une famille ordinaire dans l'histoire de France.
Ce livre retrace l'histoire de 3000 ou 4000 personnes en des temps agités. Il suit l'histoire à travers 98 petites histoires d'une ville moyenne et d'une femme curieuse et illettrée, Marie Aymar, qui y a vécu toute sa vie. La ville dont il est question est Angoulême, dans le sud-ouest de la France. Du vivant de Marie Aymar, cette ville était connue pour être un lieu d'inquiétude, de repli sur soi et d'affaires juridico-financières interminables. C'est l'histoire d'une vaste famille, dans l'espace et dans le temps, au fil des 18e et 19e siècles. La famille de Marie Aymar, sur 5 générations, à travers les vies improbables de ses différents membres, jusqu'à la mort de son arrière-arrière-petite-fille, en 1906.
Bonjour Emma Rothschild.
Bonjour.
Vous avez reconnu, ce sont les premières lignes de votre livre de proche en proche, une famille ordinaire dans l'histoire de France. C'est impressionnant, cette histoire de famille. Qu'est-ce qui vous a pris?
Ah ben, tout a commencé dans les archives, bien sûr, dans les archives départementales de la Charente, près de la gare d'Angoulême. J'étais là pour une recherche sur l'intendant Turgot, la France de province dans le 18e siècle. Je suis tombée sur ces deux actes notariales qui m'a captivée. Donc, la procuration qui a été faite pour Marie Aymar, pour essayer de savoir ce qui s'est passé avec son mari qui est parti comme engagé aux Antilles. Et l'autre, le contrat de mariage de sa fille avec le fils d'un tailleur, qui était un contrat de mariage normal. Sauf que quand je l'ai retourné, il y avait 93 signatures. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette famille avec tant de sociabilité? Et tout a commencé par là.
Par l'archive. Mais vous êtes historienne. Tout commence par le document, par l'archive.
Ah bah oui, toujours. Oui, le goût de l'archive.
Obligatoirement. Petit clin d'œil à Arlette Farge. Emma Rothschild, vous êtes historienne donc et titulaire de chaire à Harvard avec cette étude que vous menez de proche en proche, une famille ordinaire dans l'histoire de France. Un acte notarial, on en trouve, hein. On en trouve aux archives, bien sûr. Parfois, il y en a en vente. Mais tout le monde ne fait pas la démarche que vous avez adoptée face à un acte notarial, c'est-à-dire retracer l'histoire d'une famille.
Mais c'était également, bien sûr, à partir des archives qui sont beaucoup plus disponibles maintenant pour tout le monde en ligne, c'est-à-dire des archives départementales. Je me suis trouvée aux archives municipales d'Angoulême je me sens très chez moi maintenant, et leurs archives sont en grande partie en ligne, sur les mariages, sur les décès, sur tout ce qui est un peu plus tard, état civil. Et c'est disponible en partie à partir des sites généalogiques, mais c'est pour tout le monde de faire ces recherches.
Faire de l'histoire aujourd'hui, ce n'est plus faire de l'histoire comme par le passé. Je l'ai vécu également, tout comme vous. Il y a désormais des outils qui permettent d'approcher l'état civil, les archives, oui, de manière beaucoup plus facile. Vous avez été à Angoulême, mais ces archives auraient pu être consultées un peu partout. Maintenant, c'est en ligne.
Pas les archives notariales, pas les archives judiciaires, pas les archives que j'ai beaucoup fréquentées à Angoulême, la série L des archives, qui est les archives de l'administration de la période révolutionnaire.
Ouais, ces archives-là, oui, ne sont pas encore numérisées. On comprend pourquoi il faut se déplacer dans les centres d'archives.
Il existe presque plus. J'avais un dossier que dont j'avais très besoin. Je l'ai demandé aux archives départementales. Il est venu avec un petit mot en disant poussière.
Oui. Et vous n'avez pas pu la voir?
Oui.
Bah, ça arrive. Mais oui. C'est vrai qu'il y a toutes ces considérations de conservation des archives. Oui. En tout cas, vous trouvez ces documents, deux documents, et dès lors, vous imaginez construire l'histoire d'une famille ordinaire. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez ces documents, et on l'a bien compris, ils vous intriguent, vous avez déjà en tête ce projet fou. Combien de personnes vous avez croisées dans votre étude?
Oh, 5 000 peut-être.
Non, mais vous imaginez
que j'ai
déjà
nommé.
Mais oui, c'est ça. Vous imaginez ça dès le début?
Non, pas du tout au début. J'avais en tête un projet assez limité. Mais j'essayais bien sûr de trouver le milieu immédiat de cette femme, Marie-Aymar. Depuis des années, je m'intéresse beaucoup à ces questions des liens entre le micro et le macro. Comment on peut étudier une histoire assez particulière pour essayer de poser des questions plutôt larges. J'avais l'idée qu'on pourrait aller du micro au macro par contiguïté. Et le nom du livre en français, De proche en proche, renvoie à cette idée. Et j'ai pensé surtout contiguïté, la famille, les enfants, le mari, peut-être les voisins, les signataires. Mais j'ai pas du tout eu l'idée de me lancer dans une contiguïté à travers le temps.
Avec ce document qui est à l'origine de l'aventure.
Elle nous a dit et remontré que le dit Louis Ferrand, son mari, serait parti de cette dite ville d'Angoulême et aurait passé avec Monsieur Cazot à la Martinique en l'année 1753. Il est allé ensuite établir sa résidence en l'île de Grenade. Elle a appris que son mari avait acheté une certaine quantité de nègres et quelques mulets, qu'il gagnait 24 livres par jour, outre environ 15 livres que ces nègres lui procuraient aussi par jour. Il avait gagné une petite fortune pendant les 4 à 5 ans qu'il avait demeuré à la Grenade. Il s'est ensuite rendu à la Martinique avec l'idée d'en partir pour se rendre auprès de sa famille. Mais il avait été attaqué d'une maladie de laquelle il était décédé le 3e jour chez les Pères de la Charité.
Diane Devancey qui nous lisait ce document de 1764. Quittons, c'est quelque chose comme ça. Emma Rothschild, qu'est-ce que ce document, en fait?
Les documents racontent, en effet, des rumeurs. Je ne sais pas si ce fortune a existé dans l'île de la Grenade. Je ne sais pas s'il a pu acheter des personnes pour travailler pour lui. J'ai essayé désespérément de trouver des traces à Martinique de son décès, dans les registres de l'hôpital, même sur l'île de la Grenade, qui était passée sous domination anglaise à la période. Pas de traces du tout. C'était aussi assez passionnant de penser aux informations qui circulaient dans cette toute petite ville de la France profonde sur l'esclavage, sur les conditions de travail dans les colonies. Et c'est ça, je crois, qui m'a intéressée au début.
Au début. Après, vous tirez ça, le fil.
Bah, j'ai suivi ces pistes multiples.
Il y a une certitude, cependant, à partir de ce document, c'est qu'il existe une femme qui s'appelle Marie-Aymar, qui se trouve à Angoulême, nous sommes au XVIIIe siècle, oui. Qui a des préoccupations, des soucis. Son mari est parti, oui. Et elle ne sait pas où il est. Hein. C'est lui qui est parti à l'autre bout du monde.
Oui.
À partir de là, qu'est-ce que vous en faites? Vous décidez de reconstruire son existence à elle, sa généalogie?
En essayant de comprendre ce qui s'est passé, j'ai dû m'intéresser à ses enfants. D'abord de les retrouver dans les registres paroissiaux. Et ensuite, vous savez, une façon de connaître un peu sur une personne, c'est de trouver son acte d'essai. Et comme Marie-Aymar, j'étais curieuse. Je voulais savoir ce qui se passait après. Et j'étais captivée par toutes ces histoires. Vous savez, je suis professeure, j'ai un tenure, je peux écrire sur n'importe quoi. Et je me disais, ah ben, je vais suivre cette famille.
Oui, parce que dans votre livre, De proche en proche, une famille ordinaire dans l'histoire de France, c'est passionnant parce que la démarche elle-même est sidérante, hein, de se dire que vous reconstituez sur plusieurs générations les destins d'une famille. Il y a un petit côté Zola dans ce que vous faites, vous voyez, dans cette idée-là. Et puis, ça nous permet de comprendre la période. Il y a de ça aussi. Il faut replacer chaque individu dans son contexte, temporel, bien sûr, oui, et social. Marie et Marc, c'est qui, cette dame?
Elle est la troisième génération habitant à Angoulême. Son grand-père est venu de la campagne au milieu du XVIIe siècle. Elle est un peu mystérieuse. Il y a très peu de traces de sa famille à elle. Son mari était le fils d'un sabotier dans le Loire. Il est venu comme travailleur immigré à Angoulême. Il travaillait comme menuisier. C'était un milieu d'artisans de la ville. Parmi les signatures, il y avait énormément de boulangers, des petites marchandes, ce genre de débouchés.
Pourquoi ils signaient tous ces gens-là sur ce document? Parce qu'il y a du monde, hein, il y a plus de 80 personnes.
Oui. Je me posais la question plusieurs fois. J'imagine, et ça, partout dans le livre, j'essaie de vérifier, de donner d'insister sur le fait que même les familles ordinaires, et je dois dire que aucune famille n'est ordinaire, mais qu'on peut avoir des notes en bas pour n'importe quelle famille. Donc, mais si j'essayais d'imaginer pourquoi il y avait tant de monde à signer, d'abord, explication très normale. C'était des familles très nombreuses, avec le père du mari, il était tailleur, c'est une profession où l'on rencontre beaucoup de monde. Mais surtout, il me semble que eux, ces femmes et ces hommes du XVIIIe siècle, étaient elles-mêmes curieuses de cette bizarre histoire de l'île de la Grenade, de la fortune, de la mariée. Il était là pour essayer de savoir ce qui s'est passé avec. Parce que c'était, il y a pas plus que quelques semaines avant la procuration et le contrat de mariage. Ils sont des gens comme nous, ces illettrés ou quasi-illettrés du XVIIIe siècle. Ils voulaient avoir des informations sur ces histoires baroques venues de l'île de la Grenade.
Ben oui, Marie Aymar, qui voit son mari partir pour le bout du monde, elle ne sait pas ce qu'il devient, et donc, là, on est à Angoulême, hein. Elle se pose des questions.
Oui.
On en est là. Avec tout cet univers à construire autour de ce personnage, vous avez dit qu'il y avait des sabotiers dans la famille.
Oui, oui.
Moi, j'en ai un autre sabotier à vous présenter.
Ah ben, c'est Louis-François Pinago.
Eh oui, vous l'avez deviné.
Les historiens font l'histoire d'un tout petit nombre d'individus, même lorsqu'il s'agit du 19e siècle, c'est-à-dire du siècle qui a précédé le nôtre. Et lorsqu'ils traitent du peuple, ils traitent du peuple en masse, comme un collectif. Alors je me demandais s'il était possible d'étudier un individu et de lui conférer le statut de sujet. Et s'il était possible d'infuser de la singularité, en quelque sorte du singulier, dans cette masse anonyme que l'on décrit comme étant le peuple et dont on fait simplement un collectif. Ce que je n'ai pas trouvé à propos de Louis-François Pinago, c'est sans espoir de le trouver pour les autres individus, ouais, mis à part peut-être une petite dizaine qui ont écrit leur autobiographie des mémoires ou des souvenirs, mais qui, ce faisant, se sont complètement détachés du peuple auquel ils prétendaient appartenir. Si les historiens sont honnêtes, ils sont obligés de reconnaître que pour la très grande masse de la population, la majorité, l'extrême majorité de la population, ils se heurtent pas totalement à l'inaccessible, mais ils ne peuvent recueillir ce que j'ai recueilli, c'est-à-dire des renseignements sur Louis-François Pinago, qui jamais ne le visait en tant qu'individu, mais qui se trouvait là simplement parce que l'État avait besoin de soldats, avait besoin de contribuables et avait besoin d'électeurs.
Formidable Alain Corbin sur France Culture en 1998, qui présente son livre Pinago, un personnage qu'il a pris au hasard dans les archives, oui, un peu les yeux fermés, plouf, 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 oui, ce sera lui. Il reconstitue la vie, oui, de quelqu'un dont on n'a pas d'informations, ces gens invisibilisés. Vous, Emma Rothschild, vous avez vécu la même chose avec Marie Aymar. mais toute la famille. On peut dire que vous avez voulu faire des pinagos les uns oui. côté des autres, toute la famille pinago.
Mais je parle très souvent de Corbin et de pinago dans le livre. Et je citais ce mot très beau de Corbin, la vie de quelqu'un qui a existé. Je ne cite pas exactement, mais peut dire des choses sur l'histoire de la modernité. Et oui, j'ai commencé avec des documents loquaces, comme on dit à propos des archives notariales. Donc, le début, c'était pas du tout le même, mais je dois dire aussi que l'univers de la recherche historique a beaucoup changé, même depuis ce très grand livre de Corbin. Les possibilités de consulter les archives en ligne, surtout pour moi, ayant fréquenté les archives pendant au moins 30 ans en France, c'est le caméra, la possibilité de prendre des photos numériques. Les archives s'ouvrent à 10 heures, ils se ferment à 12 heures, on recommence l'après-midi. Si on habite pas Angoulême, on est obligé de travailler très, très vite. Et donc, la possibilité de prendre des milliers de photos que j'ai, ça a vraiment changé les conditions de recherche pour les historiens. Ça a l'air simple, mais c'est beaucoup.
Très important de le dire, Emma Rothschild, parce que, effectivement, avoir la copie du document, déjà, ça évite la faute par rapport à une copie ouais. manuscrite. Et puis surtout, en l'espace de quelques heures, on peut faire des centaines, des milliers de photographies qu'on ramène chez soi et qu'on peut étudier le soir et la nuit, souvent. C'est ce travail-là aussi qui est passionnant à voir dans votre étude. Hein. Se dire qu'à partir de deux documents, ce qui n'est pas grand-chose, même si sur l'un, il y a quand même beaucoup de monde qui ont pu signer, eh bien, vous tissez le toile. Quel est l'ambition d'un tel livre? Parce que pour Alain Corbin, dans son livre autour de Jean-François Pinago, l'idée c'est de reconstituer l'univers d'un personnage qui est sabotier et puis qui au 19e siècle voit le monde changer autour de lui. Ici, c'est quoi l'ambition en traversant le temps, en traversant les générations?
D'abord, je crois que j'ai voulu raconter des histoires. Moi, je m'intéressais à cette famille assez extraordinaire. J'avais envie de raconter leur vie. Ça d'abord. Deuxièmement, et on m'a un peu poussé à dire où est-ce que ça mène, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a une vue générale du 19e siècle dedans. Je crois qu'au fond, je voulais faire réfléchir les gens, peut-être même inspirer des historiennes, des historiens à de nouvelles pistes de recherche. Moi, ce travail, surtout le travail sur le 19e siècle, m'a vraiment fait poser de questions nouvelles. Par exemple, sur le travail des femmes. Par exemple, sur le bâtiment dans l'économie du 19e siècle. Sur l'emploi dans les secteurs publics, dans les services, dont on parle énormément maintenant, mais j'ai compris à travers cette famille que c'était aussi une façon de faire une vie, de se faire avancer dans la vie, de travailler dans ces services, ces secteurs publics. Et les services ne sont pas très bien mesurés. On s'intéresse pas à mesurer les emplois publics parce que c'était censé être improductif. Donc, c'est pas facile pour les historiens économistes, les historiens de l'économie, de reconstruire ce que c'est ce secteur dynamique au sein d'un dynamisme plus large du 19e siècle en France.
Oui, parce que les grands phénomènes, souvent, ne laissent pas de traces. Et là, je pense au quotidien des gens. Bah, quand tout le monde le pratique, la vie sur les métiers, sur comment les gens font, sur ce que ça veut dire marchand. Vous réfléchissez, c'est quoi un marchand? Ça veut dire quoi? Le mot est très souvent utilisé, mais de là à l'étudier, ça devient beaucoup plus compliqué.
Oui, j'espère. Mais il y avait aussi le côté mobilité, parce que quand même l'histoire de cette famille est une histoire d'une mobilité économique, géographique, remarquable, économique, dans les deux directions, en haut et en bas. Il y a des descendantes qui ont vécu vraiment dans la misère à Paris, et aussi des figures de grande importance dans l'histoire de la France. Et je parle dans le livre de, j'utilise un mot des démographes, nuptialité, pour parler d'un changement qui m'a beaucoup frappée dans la vie de cette famille, c'est-à-dire le moment pendant la Révolution française où les mariages sont devenus exogames. Donc, dans l'espace de deux générations, on a marié Marie, on a sa petite fille, qui donc la fille du couple dans le contrat de mariage, qui s'est mariée avec un jeune homme de Paris, venu à Angoulême comme professeur de dessin. C'était un élève de David. Et sa mère, à lui, elle était une des gouvernantes des enfants de Philippe Égalité. Elle a connu Louis-Philippe adolescent. Elle l'a même dénoncé à un moment donné. Donc, il y a des changements sur tous les plans qui peut se montrer dans ce type d'histoire.
Moment révolutionnaire.
En ce début du mois d'août 1789, la moisson a commencé dans beaucoup de provinces. Depuis l'aube, Jacques, le paysan, a coupé les blés à grands coups de faux. Midi vient de sonner au clocher du village. Jacques sait que, à la maison, la soupe est prête. Il quitte son champ. Soudain, un énorme fracas lui fait tourner la tête. Dans un nuage de poussière, c'est une berline tirée par quatre chevaux qui apparaît. Sur son toit, les mâles s'amoncellent. Elle roule si vite, cette berline, que déjà elle passe sous le nez de Jacques, elle s'éloigne. Ses énormes roues et les fers des chevaux écrasant à grand bruit les pierres de la route. Jacques n'en croit pas ses yeux. Depuis le matin, c'est la sixième voiture de voyage qui passe. Et c'est chaque jour la même chose. La vérité est que ces berlines appartiennent à des nobles qui ont pris peur après la prise de la Bastille et qui préfèrent se réfugier à l'étranger. On les appellera bientôt des émigrés. Mais comment Jacques le saurait-il? Comment, dans sa campagne où ne parvient aucun journal, aurait-il appris que l'un des frères du roi, le comte d'Artois, est parti l'un des premiers, ainsi que l'ami de la reine, Madame de Polignac? À table, Jacques va exprimer devant sa femme et ses enfants un malaise qui est à la même époque celui de beaucoup de paysans en France. Toutes ces allées et venues ne leur disent rien qui vaille.
Eh oui, Philippe Noiret, on a reconnu sa voix, qui, en 1989, racontait la révolution aux enfants. Et là, c'est la révolution vue de la province. Et c'est intéressant, dans le cas de Marie et Marc, que ouais. Vous étudiez, Emma Rothschild, nous sommes à Angoulême. Ouais. C'est ce moment révolutionnaire. C'est une autre manière de visiter la révolution, qui bien souvent est racontée de Paris.
Ouais.
Et du point de vue des acteurs principaux, et d'ailleurs je dis acteurs au masculin parce que bien souvent c'est une histoire masculine. Là, c'est un moyen de regarder la révolution d'une autre manière.
Oui, j'espère. J'ai même essayé d'étudier la révolution à partir d'une place à Angoulême qui s'appelait à l'époque Place du Mûrier, maintenant Place Francis Luel, et dans les archives j'ai pu regarder toutes les maisons qui entouraient cette place, qui y habitaient. Par exemple, il y avait un des grands acteurs de la Révolution française à Angoulême qui était lui-même né esclave à Saint-Domingue, émancipé à sa naissance, qui est devenu horloger à Angoulême et un des grands révolutionnaires. Il habitait là, Place du Mûrier, à deux pas des petits-enfants de Marie et Marc. Mais en ce qui concerne les émigrés, j'ai pu étudier une source très intéressante aux archives municipales, c'est-à-dire les divorces dans les années 1790, parce qu'il y avait pas mal de divorces à Angoulême, dont pas la plupart, mais en grande partie les époux ou les épouses des émigrés, mais aussi des personnes normales qui ont voulu divorcer, y compris un des petits-enfants de Marie-Aimard.
Nous sommes à Angoulême, sur la place du marché. Ambiance révolution, institution qui change, la société change aussi. Pour Marie Aymard, pour ses enfants, ça signifie quoi ces changements-là? Du point de vue économique, hein, le commerce, du point de vue social aussi. C'est un bouleversement dans la généalogie, ça ouvre des possibles?
Ah oui, Marie Aymard elle-même, elle a vécu le début de la révolution. Elle est morte en 90. Pour ses enfants, son beau-fils qui était enseignant, ça a été difficile. Il a travaillé à l'école qui était avant l'école des jésuites et c'était un moment assez pénible pour le collège d'Angoulême. Mais il a trouvé un emploi au sein de l'administration municipale. La personne qui s'est vraiment trouvé un métier pendant la Révolution, c'était une des filles. Elle n'a jamais marié. Elle était marchande de mode au début de la Révolution. Elle avait une petite boutique. Et ensuite, elle a, à travers des échanges extrêmement compliqués, elle a pu acheter un des biens nationaux pour y monter une école de jeunes filles avec ses 4 sœurs également célibataires. Et c'était ces 5 filles qui n'ont jamais marié, qui étaient en effet au cœur de l'histoire économique de la famille au début du 19e siècle.
Emma Rothschild, vous étudiez la descendance de Marie Aymard, on peut le dire ainsi, mais pas seulement. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'étendre au maximum ces relations. Il y a Marie Aymard qui est une figure première de cette histoire-là, mais ensuite, sur plusieurs générations, vous explorez et vous traversez le 19e siècle. Vous allez jusqu'au début du 20e siècle dans cette étude.
Oui. Je me posais la question, bien sûr, où est-ce que ce livre doit se terminer? Et en anglais, il s'appelle An infinite history.
On le traduirait comment, littéralement, ça? Une histoire infinie.
Une histoire infinie.
Oui.
Oui. Pour plusieurs raisons, dont une est, c'est une raison que je prends très au sérieux. Je m'intéressais beaucoup dans ce livre à ce qu'on pourrait appeler l'histoire du mémoire public. On a fait d'immenses travaux en France sur le mémoire public, mais le mémoire privé au sein des familles, ça m'intéressait beaucoup. C'était, si on s'intéresse aux informations, c'est vraiment fondamental. Et j'essayais de concevoir la famille de Marie Aymard comme des gens sommes-nous, hein, qui s'intéressent aux informations. S'ils étaient des gens comme nous, hein, les enfants parlaient avec les grands-parents. Les enfants poser des questions à leurs grands-parents en disant « Mais qu'est-ce qui se passait? C'était comment pendant la Révolution française? Où est-ce que ma mère a rencontré mon père ?» etc. Et il y a une double liaison, pour ainsi dire, entre les petits-enfants de Marie Aymard et leurs propres petits-enfants, ce qui monte à la génération dont la dernière, ou à peu près la dernière, est décédée en 1900. Mais il y a une autre raison, un peu plus compliquée. J'avais l'impression que je ne voulais pas nuire aux gens vivants. Donc, j'ai terminé le livre bien avant les proches des personnes vivantes, même si je sais beaucoup des descendants vivantes de Marie Aymard actuellement. Mais le livre a été vraiment en dialogue avec l'industrie de la généalogie. Et c'est aussi une grande différence avec la recherche historique à l'époque du grand livre d'Alain Corbin. Parce que ça a explosé en France comme partout dans le monde. Il y a des chercheurs des ancêtres, des sites web, des ressources conçues, pas pour les historiens, mais pour les généalogistes. Et je pensais beaucoup à ce public. Je suis assise à côté d'eux dans les archives physiques. Je suis assise à côté d'eux virtuellement dans les archives en ligne des archives municipales d'Angoulême. Donc, c'était une autre idée que j'ai eue avec le livre. Si je pourrais un peu donner le goût de chercher davantage dans l'ascendance des personnes vivantes, ne s'intéresser pas uniquement aux grands-mères et grands-pères, mais peut-être les tantes célibataires qui ont eu des vies intéressantes, peut-être les voisins, peut-être les événements autour. C'était ça un peu l'idée.
Et Marocci, vous avez parfaitement raison de rendre hommage à cette démarche de généalogie, parce que c'est s'intéresser au passé, c'est s'intéresser à l'histoire, et c'est un travail bien difficile quand il s'agit de déchiffrer des actes d'état civil du passé dans cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui de proche en proche. Une famille ordinaire dans l'histoire de France est publiée au Seuil. La traduction, c'est Johanna Blayac de votre livre Emma Rothschild. Et dans cette histoire, c'est Marie Aymar, la grand-mère.
Oh, quelle cérémonie pour grand-père et grand-maman. La famille est réunie pour leurs noces de diamants. Le champagne qui pétille fait pétiller tous les yeux. Quand une petite fille dit en riant au bon Dieu, voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser, grand-mère? Comme la joie est immense, on fait jouer au phoneau le disque d'une romance aux accents doux et vieillots. Alors oublions le ride en souvenir du passé. Les deux aïeux se décident et s'enlacent pour danser. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser, grand-mère ?
Je peux faire une petite commentaire sur la musique ?
Allez-y, Emma Rothschild.
À Harvard, j'ai un cours qui s'appelle « La vie économique des femmes ». Et au début du cours, ce sont de très jeunes étudiants, âgés de 18-19 ans. Je pose la question, quel travail fait ta mère? Et presque tout le monde sait ce que fait sa mère. Et ensuite, je pose la question, mais que faisait ta grand-mère? Oh, je ne savais pas. Bon, c'est intéressant. Et pas mal d'étudiants m'ont dit, ben, nous rentrons pour les vacances scolaires chez nous, pour les fêtes. Je vais poser des questions à ma grand-mère pour savoir quelle était sa vie économique à elle il y a 50 ans. Et ça a été passionnant, cette enquête qu'en fait les étudiants.
Ah, il faut toujours faire parler nos grands-parents, et comme ça ils ont pu dire « Voulez-vous danser, grand-mère ?» Là, c'était la chanson de Lina Marji, une très belle année, 1948, avec ici ce lien qui relie les générations. On a une figure, bien sûr, donc on l'a bien dit, une figure première, Marie Aymar. On peut évoquer les patronymes, hein, parce que Marie Aymar qui se marie...
En principe, c'est la famille Ferrand du nom de son mari, oui.
Et puis très vite, de nouveaux patronymes arrivent. Alors, il y en a plein. Hein. Il y a l'Allemand.
Mais le mari dans le contrat de mariage s'appelait soit allemand, soit la Vigérie, qui était, je crois, le nom de, du village où, où la famille était originaire. Mais c'est à travers ce nom que j'ai trouvé en ligne cette énorme figure dans la cinquième génération, le cardinal Charles Martial, allemand, la Vigérie.
Mais oui, parce que ça y est, on a le nom, la Vigérie, tout de suite, ça titille. On se dit ça, j'ai déjà entendu le cardinal, bien sûr.
Oui.
Parce que dans les généalogies, bien sûr, il y a cette recherche de destins remarquables, ouais, de personnages, ouais, qui ont croisé des grands événements ou, ouais, qui ont eu une ascension sociale particulière. En l'occurrence, ici, il y a ce cardinal. Comment, quand vous découvrez qu'il fait partie de cette histoire-là, vous arrivez à expliquer son parcours singulier? Comment lui est devenu cardinal et pas n'importe quel cardinal au XIXe siècle?
Mais c'est, il était le petit-fils du petit-fils de Marie-Aymar qui s'est divorcé, en effet. C'est, ça n'a pas aidé dans sa... Peut-être, je ne sais pas si ça n'a pas aidé, mais ce n'était pas facile dans, dans l'Église de la fin de, du XIXe siècle. Il était brillant comme élève. La famille habitait Bayonne, où j'ai d'ailleurs fait des recherches aussi. Et je crois que la famille d'Angoulême était plutôt révolutionnaire, pas très croyant. Je crois que c'était il était rebelle contre cet héritage familial. Il est devenu très jeune prof d'histoire, prof de l'histoire de l'Église à Paris. Et ensuite, il est devenu très jeune évêque de Nancy. Et ensuite, il est parti en Alger, comme archevêque d'Alger, ensuite cardinal. Il a ses archives à lui, ou plutôt l'ordre qu'il a fondé, les Pères Blancs, ont des archives remarquables à Rome, où j'ai trouvé des documents remarquables. Ses lettres avec sa sœur, qui est la personne avec laquelle le livre se termine, Louise, la sœur du cardinal, qui était une personnalité remarquable. Mais c'est une histoire des destins que j'aurais pas imaginé au début.
Ah oui, mais Marie-Aymar l'aurait pas imaginé non
plus. Non.
Si on lui avait dit, il y aura un cardinal.
Oui, ouais, bah oui.
Elle l'aurait pas imaginé une seconde, et celui-là, c'est pas n'importe quel cardinal.
En 1868, le cardinal Lavigerie est nommé délégué apostolique du Sahara et du Soudan. Alors il fonde la Société des missionnaires d'Afrique et définit ainsi le rôle que les Pères Blancs sont appelés à jouer.
Vous donnerez l'hospitalité de Dieu, comme ils disent eux-mêmes, à tous ceux qui frapperont à vos portes, un remède pour leurs maladies, à tous ceux qui sont infirmes, un asile à leurs petits orphelins, et à tous la preuve, par vos discours et par vos actes, que vous les aimez comme des frères. Voilà votre œuvre, dans toute sa simplicité et sa grandeur.
La simplicité et la grandeur aussi de Michel Bouquet, qui nous lit dans cette archive un texte du cardinal de la Vigerie. Nous étions en 1958. Emma Rothschild, c'est très intéressant de voir comment se construit ce destin familial, avec ici ces voies différentes, parce que c'est une histoire sociale. Alors, on évoquait Émile Zola, toute cette réflexion que Zola a pu avoir à la fin du 19e siècle sur le poids de l'héritage généalogique, on va dire, l'hérédité, c'est très complexe. Mais là, on voit de manière évidente comment des destins se construisent, comment, si une voie liée à la banque se développe, le destin des descendants n'est pas le même qu'une autre branche de la famille. C'est en ça que cette histoire très large d'une famille entière est éclairante sur les trajectoires du 19e siècle.
Oui. Il a un côté extrêmement Zola-esque dans les destins des descendants qui se trouvaient à Paris vers la fin du 19e siècle. Donc il y a une des cousines, elle était lingère, elle a eu 10 enfants, dont 9 sont décédés en bas âge. Donc une famille extrêmement... qui se trouvait dans une situation très difficile. Sa sœur à elle, qui n'a pas eu d'enfant, était marchande ambulante dans le 18e arrondissement de Paris. Et à 2 kilomètres de là, il y avait une autre cousine qui était la femme d'un banquier, un banquier du Mont, qui vivait dans une villa Haussmann. Et ça arrive dans Zola que les cousins se voient du coin de l'œil dans la rue à Paris. Et ça m'a beaucoup frappé. Mais je dois dire aussi, quand vous avez monté ce voix des mots de cardinal, je me disais, ah, est-ce que ça pourrait être pour la première fois j'entends la voix du cardinal Lavigéry? Parce que je n'ai aucune idée comment il parlait, dans le cas du cardinal, il y a énormément de portraits, de sculptures, de photographies, mais pour les autres, rien, hein. Je ne sais pas comment il se portait, les cheveux, les yeux, tout ça, inconnu.
C'est très important aussi ce que vous dites là, Emma Rothschild, parce que cette histoire-là, c'est évidemment une histoire incarnée. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des destins. Et un personnage qu'on n'a pas encore évoqué, une voix que vous allez reconnaître, bien évidemment, celle de Carlo Ginzburg.
C'est-à-dire que je pense que l'histoire n'est pas une forteresse, mais c'est plutôt un port. C'est-à-dire que il y a des navires qui sortent, qui entrent, etc. Il y a mouvement, on noue des dialogues, des discussions, des disputes aussi. Alors l'idée de interdisciplinarité me paraît sans intérêt parce que évidemment tout objet de recherche est par définition n'est pas non lié d'une façon intrinsèque à une discipline donnée. On peut l'aborder de plusieurs points de vue, etc. Ce qui est intéressant à mon avis, c'est l'idée de établir des dialogues et des disputes, pas seulement avec les résultats d'une discipline à côté, mais aussi avec les méthodes. Parce que, au fond, les méthodes, évidemment, sont derrière les résultats et on ne peut pas accepter les résultats en tant que tels. Et alors, par exemple, je suis fasciné par les démarches des historiens de l'art, c'est-à-dire l'attribution des choses comme ça. C'est quelque chose qui vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Et ça nous intéresse aussi beaucoup ce travail de l'historien Carlo Ginzburg, historien de l'art dans le même temps. Il était en 2007 sur France Culture. Emma Rothschild, vous le citez dès les premières pages de votre livre parce que sa découverte, ou en tout cas la découverte de ses travaux, est aussi à l'origine de toute votre démarche. Et alors là, je parle de votre livre De proche en proche que vous publiez au Seuil. Mais globalement, il y a de ça aussi, ce côté très stimulant de la micro-histoire qui a été proposée à ce moment-là.
Le papier de Carlo Ginzburg avec Carlo Poni sur la microstoria, sur Il nome e il come, donne la possibilité de ne pas être obligé de choisir entre le micro et le macro, de ne pas être obligé de choisir entre la vie des individus et la vie des sociétés. Et cet article qui m'a vraiment le plus inspiré. Et j'insiste aussi sur Carlo Poni, l'autre auteur de cet article, parce que c'était un historien économiste. Et pour moi, qui est formé d'origine comme économiste et ensuite historienne de la vie économique, Carlo Poni était une très grande figure. Mais bien sûr, c'était aussi une question de ne pas être obligé de choisir entre l'histoire, même l'histoire économique, et la littérature.
Oui, donc, parce que tout est là, et c'est cela qui est intéressant, Emma Rothschild, dans votre démarche, c'est que l'économie est très présente, on le voit bien, et parce que faut bien s'appuyer sur le peu d'éléments dont nous disposons, et le peu d'éléments dont nous disposons, c'est quoi? C'est l'état civil, et après des questions notariales, des questions d'échange. Il y a ce problème des sources sur les individus, mais à replacer dans un contexte beaucoup plus vaste. Et ce contexte beaucoup plus vaste, c'est là où on peut faire intervenir la littérature, la politique. Ouais. C'est ce va-et-vient, en fait, constant, qui permet de construire cette, pas généalogie, parce que ce serait tellement réducteur de dire ça, mais cette étude autour d'une famille.
Mais il y a aussi les archives de la vie économique, les registres. J'ai trouvé la jeune femme qui était marchande de mode. Elle était l'unique membre de la famille sur 3 générations qui se trouvait dans le registre des propriétaires à Angoulême à la fin du XVIIIe siècle. Donc, on a l'impression que les sources de l'histoire économique sont arides, pas très intéressants, mais on peut trouver des choses là-dedans, absolument. Mais en ce qui concerne le roman, oui, j'ai eu l'impression de vivre avec Balzac et un peu plus tard dans le projet de vivre avec Zola. Mais il y a aussi un moment qui m'a... Un des moments les plus étonnants pour moi aux archives, c'était quand je regardais dans les archives judiciaires il y a un cas très particulier du vol d'un chien. Hein, et j'ai vu le nom en bas. C'était Eliza Stern. C'était la fille du grand romancier Laurent Stern. Après la mort du mari, elle est rentrée, elle est venue habiter à Angoulême parce que c'est moins cher que Londres. Et il y a ce petit chien qui a été volé. Il a des témoins pour cet épisode. Et je lui ai donné, dans le livre, je donne un nom un peu théâtral à ce petit récit d'après Tchekhov, la dame au petit chien.
Oui, parce que c'est ça aussi, c'est écrire, on évoquait les micro-histoires, ces petits événements liés à des individus qui rencontrent d'autres gens, tout ça c'est de l'impalpable, tout ça, c'est très difficile. Alors faut retracer ce que vous avez fait, Emma Rothschild, les voisins, le voisinage, c'est bien, ça permet de regarder sur une carte qui était là, on côtoyait qui, les boulangers, on l'a bien dit, il y a toute cette sociabilité. Et puis il y a des personnalités, des personnages, il y en a certains qui vous ont étonné dans votre recherche. Alors Marie Aymar, au début de l'aventure, le cardinal, la Vigerie, à un moment donné, des personnages remarquables sans doute, mais il y en a d'autres qui vous ont touché particulièrement.
Le petit frère du cardinal et de Louise, qui s'appelait Léon Bernard Lavigerie, il est là dans le bouquin, il est parti à Tahiti comme pharmacien de la marine. Et j'ai trouvé, il y a une romancière de la Nouvelle-Zélande qui a écrit une espèce de mémoire sur Tahiti. Elle a parlé beaucoup de lui. Il avait l'air très sympa. Et j'ai pas pu abandonner ce projet depuis que le livre est publié. Et je continue un peu de rechercher dans leur vie. Et j'ai retrouvé ce Léon Bernard Lavigerie. Il était à Tahiti, à Papeete, en 1863. Il y avait une énorme affaire de rétablissement de l'esclavage avec des entrepreneurs de Pérou qui faisaient une espèce de razzia dans les îles polynésiennes. On a eu un grand procès à Tahiti. On a emprisonné les esclavagistes et le procureur impérial, c'était Léon Bernard Lavigerie. C'était un pharmacien de marine, troisième classe. Il avait 25, 26 ans, mais il a fait des plaidoyers. Ça n'est pas dans le livre. C'est pas inconcevable que ça va devenir un autre livre. Mais il m'a toujours beaucoup touché, ce Léon Bernard, qui est devenu, après il est devenu médecin à Vichy, il est mort très jeune.
Avec ici des choix de l'historienne malgré tout, on l'entend bien. Souvent, ces histoires se racontent au masculin, on regarde les lignées masculines. D'ailleurs, le patronyme lui-même efface le nom des femmes, on sait très bien comment c'est. Vous avez choisi, vous, Emma Rothschild, de mettre en avant le point de départ, Marie Aymar. Avec son nom de jeune fille, ça aurait pu commencer avec son mari, ça aurait pu commencer avec Gabriel Ferrand, cet homme qui est parti au bout du monde et dont on n'a plus de nouvelles, etc. Il y a aussi un choix de mettre en avant une femme en premier. Puis la généalogie, en tout cas l'étude que vous menez, permet aussi de donner la voix ou de porter le regard sur ces femmes longtemps invisibilisées.
Mais c'est pas uniquement question des femmes, mais aussi de replacer les femmes célibataires, ces tantes non mariées, avec leur vie compliquée, intéressante, réussie. Et j'ai voulu beaucoup insister sur ça, que c'était pas les femmes qui ont eu une descendance, qui sont des sujets d'histoire, des personnalités intéressantes.
Femmes invisibilisées, mais alors femmes célibataires, très, très invisibilisés. Donc, c'est aussi par cette démarche-là l'occasion de les mettre en avant. Vous êtes évidemment, Emma Rothschild, à la pointe de la recherche.
Papa du papa de mon papa était un petit piou-piou. La maman du papa de mon papa, elle était nounou. Lui, son nom, c'était Aimé Dépêche, elle s'appelait Amélie Vite. Et attendez, attendez, vous allez voir la suite. Le papa du papa de mon papa s'affolait pour les mollets. De la maman du papa de mon papa qui rêvait de convoler. Quand Aimé lutinait les jolis mollets moulés de la mon Amélie. Elle frétillait, tortillait comme l'anguille à l'anguille. Et de fil en aiguille, il est arrivé ce que vous pensez. Aimé Amrita, son les faveurs d'Amélie voulait lui refuser. Mais le papa du papa de mon papa a dit: je suis pas un pourceau. Je voudrais pas qu'à cause d'un faux pas une fille tombe dans l'eau propre du ruisseau. Je vais de ce pas demander à son papa la main de la belle Amélie Vite, qui de ce fait va devenir Amélie Dépêche. Et leur fils, le papa de mon papa, qu'on nomma Yvan Dépêche, eut pour fils mon grand-papa Guillot, qui était un saint, c'était Saint Guillot de pêche, qui en bégayant eut trois jumeaux, mon papa, mon tonton des dépêches, et ma tata qui s'appelait Pelle Dépêche à Laline. Tata Line épousa un noyau et une pourfille à mes des noyaux de pêche. À mes des épousa un beau sac pour devenir beau sac de noyaux de pêche. À un fils doté de trois prénoms, un souvenir de ses glorieux ancêtres. Yvan Sévère et mes beaux sacs de noyaux de pêche. C'est mon cousin, Yvan Sévère et mes beaux sacs de noyaux de pêche.
La Bobby la pointe. En 1966, le papa du papa. Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Cassandre Puel, avec à la technique Julie Garraud. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, Emma Rothschild, de proche en proche, une famille ordinaire dans l'histoire de France. Quand on parle d'histoire, et ça y est, maintenant c'est dépassé, mais bien souvent c'est le cadre politique hein, qui nous permet de construire les différentes étapes. Qu'en est-il du cadre politique dans cette histoire-là? Est-ce que cette histoire sociale, au plus près des gens, au plus près d'une famille, met seulement en toile de fond l'aspect politique? L'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la République, le Second Empire. Est-ce que tout ça, c'est très important dans ces destins?
Oui, je crois que ça se trouve bien sûr dans le livre. Et je n'ai pas voulu être obligée de choisir entre le micro et le macro. Également, j'ai pas voulu être obligée de choisir entre l'histoire économique, l'histoire politique, l'histoire sociale, l'histoire des individus. La Révolution française a tout changé pour cette famille. Mais la révolution de 48 a pas mal changé pour eux aussi. Un des descendants est devenu banquier sous la première au mois de février après la révolution de 48. C'était une ascension sociale qui s'est beaucoup mêlée avec les grands destins politique de la France. Angoulême était une ville extrêmement napoléonienne. C'est quand Louis-Napoléon est venu très tôt.
Président de la République, oui.
Oui, il est... j'ai regardé les votes. Angoulême votait en grande majorité pour Louis-Napoléon. Et il y a un côté économique aussi. La Restauration a été très bien pour Angoulême, la restauration dans le sens politique, mais également dans le sens physique et matériel. Il y a toute une reconstruction de la ville. On a bâti énormément d'églises au cours du 19e siècle. Le mari exogame de cette petite fille de Marie-Emma, qui était au début professeur de dessin, il est devenu architecte, très involvé dans la construction des églises. Et je crois que c'est là une source du dynamisme économique de cette période. C'était un immense effort de refaire la structure physique de ces villes de province.
Parce que Angoulême est aussi l'héroïne de cette histoire-là, cette ville d'Angoulême. On a beaucoup cité Émile Zola. Vous avez déjà évoqué Balzac, parce qu'il y a un côté comédie humaine hein, dans oui. votre démarche. Et justement, ça tombe bien, Les Illusions perdues, ça se passe à Angoulême.
Angoulême est une vieille ville, bâtie au sommet d'une roche en pain de sucre, qui domine les prairies où se roule la Charente. Vers le temps où cette histoire s'y passa, le gouvernement essayait de développer la ville en bâtissant le long de la colline le palais de la préfecture, une école de marine, des établissements militaires. Mais le commerce avait pris les devants ailleurs, et surtout sur les bords de la rivière, le long de laquelle passe la grande route de Paris à Bordeaux. Le faubourg de Lumeau devint donc une ville industrielle et riche, une seconde Angoulême qui jalousa la ville haute. En haut, la noblesse et le pouvoir, en bas, le commerce et l'argent. Deux zones sociales constamment et en tout lieu ennemies.
Jean Gilibert qui nous lisait cet extrait des Illusions perdues d'Honoré de Balzac avec la description d'Angoulême. C'est très intéressant de voir l'analyse ici, mais de la part du romancier avec des préoccupations économiques. C'est celles qui sont les vôtres, Emma Rothschild, mais qui sont surtout celles des hommes et des femmes que vous étudiez, parce qu'ils ont vraiment ce souci-là.
J'ai parlé des cinq sœurs célibataires qui ont pu acheter une école pour de jeunes filles. La maison qu'elles ont pu acheter se trouve sur les remparts d'Angoulême, avec une vue incroyable sur la Charente, dans la direction de Bordeaux. Et c'est ça. J'ai un peu suivi Corbin dans ça. J'ai voulu marcher, essayer de voir quelle était la vue que ces jeunes dames, que ces vieilles dames a pu apercevoir chaque matin de leur école. Et je vais insister sur le fait qu'Angoulême, aujourd'hui, toujours, c'est une ville merveilleuse, une des plus belles de la France. Et c'est, j'ai pris le goût de l'archive près de la gare, mais j'ai aussi pris le goût d'Angoulême, de ces villes, de ces petites ruelles qui ressemblent pas mal à les petites ruelles du XVIIIe siècle.
Bon ben voilà, vous nous donnez envie d'aller visiter Angoulême, ouais. De relire Balzac et de relire Zola, et l'envie aussi, Emma Rothschild, de vous lire hein, de proche en proche, Une famille ordinaire dans l'histoire de France, c'est publié au Seuil, c'est une traduction hein, de Johanna Blayac, avec vraiment beaucoup de rencontres dans ce livre, et merci à vous de nous avoir permis de rencontrer tous ces gens-là, de Marie et Mar, de tous ses descendants. Merci beaucoup à vous, Emma Rothschild, d'être venue dans le cours de l'histoire.
Merci.
J'ai quand même fait une petite recherche sur ma généalogie de mes ancêtres, de ma vie, de moi-même, et j'ai découvert des affaires extraordinaires. Saviez-vous que mon ancêtre s'appelle Julien Fortin? Et Julien Fortin est responsable de 90% des Fortins au Québec. Qui explique un peu cette phrase que mon grand-père s'amuse à dire souvent, « C'est pas parce que tu le vois pas à Noël que c'est pas ton cousin. »
Alors... Virginie Fortin, l'humour, le Québec, au Grand Gala de la Francophonie 2025, dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Cassandre Puel, avec aujourd'hui à la technique Julie Garraud. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Maëlle Vincent Randonnier et Maïwenn Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour les archives. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.